Vous écoutez
RMC. RMC, Apolline Matin.
Le journal avec Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour à tous. L'Espagne, en fait, depuis hier, serait la victoire en finale de la Coupe du Monde 1-0 contre l'Argentine. Vous allez voir que les nouveaux champions du monde sont attendus à la mi-journée à Madrid où une grande parade les attend. On sera dans le Tarn, dans ce journal où les habitants sont soulagés d'apprendre que, eh bien, les ossements retrouvés la semaine dernière sont bien ceux de Delphine Jubilar. On sera aussi dans le Var où le feu, ce matin, n'est toujours pas fixé près de Draguignan, mais les nouvelles sont plutôt rassurantes.
C'est l'Espagne tout entière qui fait la fête depuis hier soir.
RMC,
radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.
Et je vous propose pour commencer, eh bien, d'écouter l'explosion de joie des Espagnols.
Ça fait mal aux oreilles.
Ça, c'était après le but de la victoire, donc en prolongation face à l'Argentine. Victoire 1-0 des Espagnols. La fête s'est prolongée toute la nuit et va se poursuivre, surtout aujourd'hui, puisque les Espagnols, nouveaux champions du monde, sont dans l'avion. Là, en ce moment, ils sont attendus à la mi-journée avant une grande parade qui les attend en fin de journée. Ce sera donc dans la capitale, Madrid. 1 million de personnes sont d'ores et déjà annoncées. Nicolas Pelletier, vous êtes en direct de New York où se jouait la finale ce matin en direct pour RMC. Et vous nous dites que cette équipe d'Espagne fait l'unanimité.
Les rois de tous les temps, titre ce matin le grand quotidien sportif Marca, accompagné de 3 points d'exclamation. Cette consécration espagnole est aussi une récompense pour le football dans une sélection qui met l'expérience comme son taulier et meilleur joueur du tournoi, le capitaine Rodri, et de la jeunesse avec Lamine Yamal qui a seulement 19 ans, remporte sa première Coupe du Monde 2 ans après un succès à l'Euro. Cette équipe espagnole a de quoi rappeler la génération championne du monde en 2010. Tout cela sous les ordres d'un homme, le très discret Luis de la Fuente, un pur produit de la formation espagnole. En 5 semaines passées aux États-Unis, l'Espagne n'a jamais vraiment été inquiétée. Une victoire finale pour une équipe invaincue depuis 38 matchs, un record en football international qui prive au passage Lionel Messi d'un doublé historique. Une finale qui aura notamment été marquée par les sifflets contre Donald Trump lorsqu'il a pénétré sur la pelouse et par l'incruste du président américain sur la photo de groupe espagnol qui soulève le trophée. Désormais, la Rora a un objectif en tête: conserver cette Coupe du Monde dans 4 ans lors du tournoi organisé à la maison.
Alors en Espagne, Nicolas Pelletier pour RMC en direct ce matin, la presse en effet est élogieuse. En Argentine, elle est bonne perdante, elle reconnaît que les Espagnols étaient plus fortes à l'image et bien des Argentins ici dans la capitale, Buenos Aires.
Nous méritions de gagner cette Coupe du Monde, mais l'Espagne a aussi montré ce qu'elle valait. C'était une finale historique et voilà, il faudra se battre pour la Coupe la prochaine fois.
Perdre ou gagner aujourd'hui n'avait pas d'importance, parce que l'équipe nationale a montré bien plus qu'une victoire. Aujourd'hui, on relève la tête et aujourd'hui, c'est une fête. Aujourd'hui, on célèbre. Bon sang, aujourd'hui, on célèbre.
Ce qui nous a manqué ici, c'est de la hargne. Rien d'autre n'a manqué. C'est-à-dire que nous avons tout donné jusqu'à la dernière minute. Nous avons toujours joué et les gars ont tout donné. C'est-à-dire que je suis plus que reconnaissant.
Bon, et figurez-vous que la France a un petit peu gagné hier soir, on se réconforte comme on peut. Mais puisque Lionel Messi n'a pas marqué, bien c'est Kylian Mbappé qui termine meilleur buteur de la compétition avec 10 buts, meilleur buteur même de l'histoire des Coupes du Monde.
Il est 8h05 sur RMC, il y a comme du soulagement ce matin dans le Tarn.
Oui, c'est confirmé, depuis hier, les ossements retrouvés la semaine dernière dans un champ sont bien ceux de Delphine Jubilar. Des analyses ont été réalisées pendant le week-end. C'est Cédric Jubilar qui avait indiqué l'endroit où il dit avoir enterré le corps il y a presque 6 ans, à une dizaine de kilomètres de Cagnac-les-Mines, où vous vous trouvez ce matin pour RMC, Jean-Wilfried Forquès, et vous nous dites que sur place, eh bien, il y a du soulagement.
Oui, effectivement, c'est bien ça, le soulagement. Soulagement, même s'il n'y avait vraiment pas trop de doutes de la part des habitants ici, certains d'entre eux ajoutent même, il nous a menti des années durant. Désormais, on va vraiment pouvoir tourner la page. Pour autant, eh bien, ce matin, rien n'est réglé. On ne connaît pas les causes exactes de la mort. Y a-t-il eu des violences? Et quel type de violence sur l'infirmière de Cagnac-les-Mines? Pour y voir plus clair, dans les prochains jours, des analyses sont d'ailleurs prévues. Une reconstitution également de cette soirée de décembre 2020 est envisagée. Ce qui fait dire aux avocats de la défense, aux avocats de Cédric Jubilar, que le procès en appel du 21 septembre prochain à Toulouse doit être absolument reporté. Pour cela, eh bien, la balle est dans le camp de la présidente des assises de la Cour d'appel de Toulouse.
L'autre info ce matin, c'est que les nouvelles sont plutôt rassurantes. Dans le Var, près de Draguignan, aux Arcs et à Tarado, les deux communes touchées par un incendie qui a parcouru 200 hectares hier, le plus gros incendie de l'été dans ce département du Var. Il a traversé l'autoroute, détruit une dizaine de maisons, provoqué de gros soucis sur le trafic des trains et l'évacuation de 150 habitants. Célia Vallée, vous y êtes ce matin pour BFM TV et pour RMC avec les toutes dernières infos.
Le feu n'est pas fixé, mais la situation est beaucoup plus rassurante ce matin qu'hier soir. Les pompiers ont lutté toute la nuit sur les nombreux points chauds. En ce qui concerne les habitants qui ont été évacués hier, eh bien, ils ont pu regagner leurs habitations depuis hier à 22h. Il y a eu une dizaine de maisons brûlées. Les personnes qui habitent dans ces maisons sont actuellement relogées à l'école de la commune. Elles sont environ 17 personnes. La complication pour les pompiers ce matin, et ça va être aussi le cas aujourd'hui, c'est d'accéder à différentes zones escarpées. Pour cela, ils peuvent compter sur deux bulldozers qui les aident à tracer des pistes autour des chantiers et ainsi y accéder grâce à leurs engins. Et enfin, un dernier mot sur la SNCF. Le trafic ferroviaire a été coupé hier. Il a repris ce matin, je cite, avec une marche prudente, selon la SNCF.
Alors, les pompiers sont aussi mobilisés contre le feu en Haute-Corse, dans une zone escarpée, ça fait 8 jours. En Loire-Atlantique aussi, où un incendie a pris hier dans une zone résidentielle près de Saint-Nazaire, le feu ce matin est fixé. C'est l'autre information. Dans un contexte, tout ça, de sécheresse, avec une cinquantaine de départements en situation de crise, après les 3 épisodes là, de canicule, on s'inquiète même par endroit pour l'accès à l'eau potable. Écoutez avec Lucas Lobert et Martin Lange pour RMC.
Apiculteur à Quincy-le-Vicomte en Côte d'Or, Alexandre est aux premières loges pour observer les dégâts de la sécheresse.
Tout est jaune, on se dirait dans la brousse. J'ai jamais vu ça comme ça.
Les nappes phréatiques sont au plus bas et la source du village ne parvient plus à alimenter le réseau d'eau potable.
Il y a des camions-citernes qui viennent du village voisin, qui remplissent le château d'eau du village.
Une situation loin d'être inédite. À 300 km de là, dans le Doubs, la commune de Montjoie-le-Château est aussi approvisionnée par des camions. Le maire, Claude Martelet.
Ce printemps, on avait quand même des nappes archi-pleines, elles débordaient. Elles se sont vidées rapidement. Et on n'a plus d'eau, quoi.
C'est la 3e fois que la communauté de communes met en place cette distribution d'eau, un système D qui a un coût.
Il y a 2 ans, on est arrivé à 80 000 euros de livraison d'eau. Heureusement pour des petites communes comme nous, qu'on gère plus ce problème-là. Je ne sais pas comment on ferait pour payer les camions d'eau.
Des pénuries qui arrivent très tôt dans l'été, selon Anne Ducharne, hydrologue au CNRS.
Les sécheresses sont pires en août qu'en juillet. Là, on est vraiment très en avance et c'est ça qui est très inquiétant. Il y aura très certainement un nombre croissant de communes qui verront l'eau s'arrêter au robinet.
Elle plaide pour renforcer dès à présent les restrictions d'eau pour les secteurs les plus consommateurs, comme l'agriculture ou l'industrie.
Eh bien justement, c'est dans ce contexte que le projet de loi d'urgence agricole est de retour à l'Assemblée nationale aujourd'hui, après l'accord trouvé la semaine dernière entre députés et sénateurs pour réintroduire 2 pesticides controversés et aussi faciliter le stockage de l'eau pour les agriculteurs. C'est pas sûr du tout que cette version du texte soit votée. Thomas Becker du service politique à RMC. Pourquoi ? Parce que le bloc central est fragmenté. Une réunion est même prévue dans l'après-midi à Matignon.
Oui, le Premier ministre va d'abord évaluer le rapport de force. Est-ce qu'en l'état, le texte peut être voté ? La question se pose parce que la réintroduction de l'acétamipride est une mesure qui crispe, reconnaît la ministre de l'écologie Monique Barbu. Elle a mené des consultations tout le week-end. Son entourage explique à RMC que la mesure met en danger le vote de l'ensemble du texte. Ce soir, c'est la position du groupe macroniste de Gabriel Attal qui pourrait faire la bascule. Un député de ce groupe plaide en coulisses pour abandonner la réintroduction de ces pesticides pour sauver le reste du texte. Abandonner les agriculteurs, on ne peut pas se le permettre, prévient le même député. Sébastien Lecornu devra trancher dans la journée. Le gouvernement peut toujours faire évoluer le texte jusqu'à la dernière minute.
Bon, et puis c'est la 2e journée de repos sur le Tour de France qui repartira demain au bord du lac Léman, sans le Danois Jonas Vingegaard, vous savez, qui a chuté et abandonné hier lors de la première étape dans les Alpes, remportée par le Belge Remco Evenepoel. Le Français Paul Sexas a concédé 1 minute. Il est ce matin 4e du général, à 30 secondes du podium. Ce sera l'enjeu de la 3e et dernière semaine.
À suivre évidemment sur RMC. C'est l'intégral tour cet après-midi. C'était Quentin Vinet pour le journal. Il est 8h10.